Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
L'ère du numérique a créé un nouveau monde qui bouleverse l'ensemble des activités professionnelles dans tous les domaines. Aujourd'hui dans YouJob, je reçois un professionnel du métier à l'origine de ces bouleversements. Alors lui, c'est un Digital Marketing Officer, c'est comme ça qu'il se présente. Il a un MBA en marketing digital, c'est un Senior Coach Digital Marketing à KDA. Il est également le Digital Marketing Manager à Vodacom RDC, c'est un passionné des nouvelles technologies et de la communication numérique. Il a près de 15 ans d'expérience dans les secteurs de la communication. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur ce soir de recevoir monsieur Melchior Essomachor Otiao. Bonsoir.
Bonsoir monsieur Claude-Stéphie.
Un plaisir de vous recevoir dans YouJob. Soyez donc le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes derrière le succès de plusieurs réseaux de télécommunications sur les plans numériques. Nous voyons Digital pour lesquels vous avez Tigo pour lesquels vous avez travaillé entre 2014 et 2007. Tigo qui est devenu depuis
2008.
Oui. Donc, de 2008 à 2016.
Exactement.
Alors, donc, pas moins de 5 ans chez Tigo, mais vous avez également travaillé, vous travaillez d'ailleurs chez Vodacom depuis 2019. Vous aidez Vodacom à se positionner comme l'un des leaders du domaine. Et aujourd'hui, votre défi pour les 10 prochaines années, c'est de révolutionner le numérique en République démocratique du Congo.
Exactement.
Immense défi.
Immense défi pour un immense pays, je dirais que c'est normal.
C'est normal.
Exactement.
Alors, donc aujourd'hui, nous allons toucher cette thématique aussi importante et pertinente, la révolution numérique. Oui. On en parle en République démocratique du Congo, on parle un peu des enjeux, mais on va vraiment aussi se diriger en tout cas sur votre quête, votre défi, parce que vous dites que vous voulez révolutionner les numériques en République démocratique du Congo. Vous êtes donné 10 ans pour y arriver. Comment comptez-vous y arriver ?
Je pense que, déjà, merci à Univers FM de me donner cette plateforme où je peux m'exprimer. Ça fait toujours plaisir de parler à nos compatriotes, de parler de sa vision. 10 ans, j'ai envie de dire que, d'abord, il faut clarifier, comment je veux dire, ce qu'on veut. Notre pays, c'est un immense pays. J'ai l'habitude de dire que c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, on a un élan où le numérique n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans, il y a 15 ans quand on a commencé. On a de plus en plus de personnalités politiques qui parlent numérique. Mais moi, j'ai toujours envie de dire que ce n'est pas leur mission seule. Même si le président de la République, pour ne citer que lui, parle de numérique, mais ce n'est pas que sa tâche à lui-même. Lui-même, il ne pourra jamais remporter le défi de entre guillemets, de digitaliser notre pays. Il faudrait que chacun, dans son secteur, puisse apporter de sa modeste contribution. C'est vraiment dans cet élan-là. Et pour contribuer à cette vision-là, dans 10 ans, il faut commencer dès aujourd'hui. À ma manière, j'essaye de mettre en place des activités. Comme vous avez eu à le montrer dans mon parcours, je suis senior coach. Avec mes apprenants, nous avons pas mal d'initiatives. On a eu à organiser une activité au Novotel pour parler de comment mettre en place un plan sur 10 ans. On est en train de mettre en place plusieurs séries d'activités que je ne pourrais pas étayer maintenant parce que c'est encore en plein labo de construction, mais j'ai envie de dire qu'il faut visualiser ce que va ressembler 10 ans et commencer à y travailler dès maintenant.
Alors, des activités comme des workshops, des conférences ou des formations sont des activités qui sont généralement restreintes. Ça ne peut pas contenir plus de 1000 personnes ou plusieurs mondes. Est-ce que vous pensez arriver et parvenir à votre objectif avec des formations, des activités comme ça?
Ce n'est qu'une part, ce n'est qu'une modeste contribution parce que le numérique, c'est un défi. Mais on sait tous que tout commence par l'éducation. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire, même quand j'interagis avec certains développeurs ou bien certains jeunes, bon, je suis jeune, mais certains plus jeunes que moi, j'ai l'habitude de leur dire que la meilleure des technologies ne servira à rien s'il n'y a pas de gens éduqués pour l'utiliser. Vous voyez ? Donc pour moi, je pense que l'éducation numérique, c'est un gros chantier où il faut vraiment s'y mettre. Je m'y mets à mon niveau, mais je pense que dans l'avenir, plus on va avancer, plus on aura des activités qui vont s'aligner dans ce sens-là, et mieux on va relever le défi. Seul, je ne pense pas que je pourrais moi-même réussir, mais je reste confiant quand on regarde la dynamique, comment ce secteur-là est en train d'avancer, on ne peut qu'être confiant sur l'avenir.
Alors je vous dis une fois de plus, bienvenue dans cette émission, on va la commencer. Merci mesdames et messieurs de nous suivre partout où vous êtes en ce moment. Je pense que vous êtes déjà à la maison, peut-être ceux qui travaillent le soir, ceux qui sont en route, vous êtes connectés à votre radio. Ceux également qui nous suivent à partir du digital, bien
exactement,
entendu.
Exactement, oui.
Ceux qui nous suivent via nos plateformes, via notre web radio, en dehors du pays et partout dans le monde, on vous dit bien sûr bonsoir et restez attentifs. J'espère que vous avez votre carnet, votre stylo pour noter parce qu'il se passe toujours, il se note toujours des bonnes choses dans YouJob. Alors, on parle aujourd'hui de ces questions. C'est un grand défi, la révolution numérique en République démocratique du Congo. Nous parlons d'un pays énorme.
Exactement.
Énorme en termes de superficie, mais également en termes de population. Pas moins de 100 millions d'habitants. Et il y a beaucoup d'enjeux. La population, bien sûr, est aussi jeune. Et on parle du numérique. D'abord, avant d'entrer et de poser d'autres questions en ce sens, comment définissez-vous cette révolution numérique en RDC aujourd'hui ?
La révolution numérique aujourd'hui en RDC, moi je dirais que c'est en pleine gestation. Aujourd'hui, on ne peut pas nier les avancées qui ont été faites. Il y a quelques années, on n'avait même pas un ministère du numérique qui existait. On n'avait pas des agences de développement qui existaient. Et il y a quelques années encore, le numérique s'est résumé à des activités sur les réseaux sociaux, voilà, quelque chose de tertiaire. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de prises de parole publiques qui montrent que l'importance du numérique, elle est grandissante. Donc, j'ai envie de dire que c'est, en anglais, on dit un job to be done, c'est encore work in progress. C'est un travail qui doit être fait et c'est un travail qui est en cours de développement.
Alors, on pense que c'est encore en cours. Et il y a un pas qui a été franchi quand même, un pas qui a été un pas important qui a été effectué. Et est-ce qu'il y a un écart entre certaines entreprises par rapport à d'autres ou, de façon générale, tout le monde est en retard ?
J'aime pas trop le mot retard parce que chacun a son propre rythme d'apprentissage. Mais si il faut impérativement se comparer, on doit dire oui, retard par rapport à d'autres pays où cette adoption s'est faite un peu plus tôt. Mais nous, on avance à notre propre rythme. Mais globalement, si vous avez la chance d'aller dans d'autres pays, vous allez voir que oui, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Je pourrais, par exemple, donner un exemple. Moi, récemment encore, j'ai été surpris, c'était une première expérience où j'étais en vacances dans un autre pays où vous pouviez entrer dans un magasin et vous ne trouviez personne. De fond en comble, c'est-à-dire vous entrez, vous achetez, vous faites le checking seul, vous ne parlez même pas à un caissier. Dans ce même pays-là, vous payez par exemple l'électricité ou l'eau via votre carte, il n'y a personne. Vous voyez ici, moi je suis...
Tout est presque digitalisé.
Exactement, moi je suis quinois, ok, j'habite Kinshasa et je sais que parfois quand on vient vous couper l'eau à la maison ou l'électricité, il y a le côté humain qui intervient où vous dites à l'agent, non, ne coupez pas, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais là, moi, j'étais surpris que quand il n'y a pas d'humain derrière, il n'y a pas d'excuse. Ouais. C'est-à-dire, dès lors que votre compte prépayé n'a plus rien dans sa balance, ça coupe. Il n'y a vraiment pas d'intervention humaine. Vous avez une petite clé, vous allez dans un magasin, vous achetez votre forfait de l'eau, vous achetez votre forfait d'électricité, vous venez mettre dans un distributeur et le courant revient. Donc, comparé à ces pays-là, oui, on peut dire que quand vous faites des comparaisons d'état en état, on peut assumer et dire oui, on a quand même pas mal de chemin à faire dans plusieurs secteurs.
Alors ça, c'est bien clair, mais il y avait plutôt... Ma question était plus vraiment orientée au niveau national, au niveau local, je vais dire. Alors, est-ce que tout le monde est encore en retard ou il y a quand même certaines entreprises, certains qui font déjà un pas, qu'on peut même considérer des entreprises qui sont fortement avancées et qui peuvent même concurrencer avec ceux qui sont à l'étranger. On parle bien sûr dans un contexte professionnel.
Exactement. Mmh. Déjà, la plupart des entreprises qui ont, disons-le comme ça, la chance d'être de multinationales, bénéficient de l'expertise des autres pays. Et c'est...
Donc c'est la raison.
Exactement, c'est la plus grande raison. Ils baignent déjà dans cet écosystème-là, multinational, et ils peuvent plus facilement copier ce qui se passe ailleurs et l'implémenter ici. Ça, c'est la première raison. Et toutes les entreprises qui ont... comme matière première, le numéro de téléphone, pour ne citer que les telcos, eux sont légèrement en avance, parce que la matière première elle-même, parce que j'ai l'habitude de dire que, bon, c'est pas moi, mais toutes les études montrent que pour faire du numérique, il faut d'abord collecter des informations et avoir des canaux sur lesquels communiquer aux clients. Déjà, quand vous avez un numéro de téléphone, c'est un pas. C'est un point, ça voudrait dire que vous pouvez construire votre stratégie numérique autour du numéro, c'est-à-dire vous pouvez lui faire des SMS, vous pouvez utiliser d'autres plateformes où vous pouvez les cibler. Ça voudrait dire que cette personne-là, ou bien ces entreprises-là qui ont déjà comme matière première les données du client, eux, ils sont un peu en avance. C'est un peu, mais les sociétés qui n'ont pas comme matière première une denrée numérique, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, un supermarché, ce n'est que récemment qu'on voit que le supermarché commence à essayer d'avoir le numéro des clients pour essayer de contacter. Ça, c'est un pas dans ce processus-là de digitalisation. Mais avant, il suffit de faire une étude, de parcourir les sociétés. Vous posez la question de savoir, ces sociétés-là, ils ont quoi comme information de leurs clients? Si la réponse est rien, ça veut dire qu'ils n'ont même pas encore commencé leur digitalisation. Parce que sans données du client, il n'y a pas de digitalisation possible.
Sacré retard, donc on pourrait constater pour certains, mais par contre d'autres avancent quand même grâce notamment à l'influence, à des stratégies partagées.
Exactement.
Avec d'autres filiales dans d'autres pays aussi déjà avancées. Donc c'est au rythme de l'écosystème.
Exactement, c'est l'écosystème qui dicte la cadence.
Est-ce qu'on peut quand même parler des transformations digitales, des révolutions numériques, si tous les domaines d'une entreprise n'intègrent pas les technologies, les solutions digitales? Parce qu'ici, dans notre pays, en RDC, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui avancent d'une manière ou d'une autre, mais apparemment, ce n'est pas du tout effectif. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler aussi des transformations digitales en ces sens?
Déjà, la notion de transformation digitale, tellement qu'elle est complexe parce qu'elle intègre beaucoup de dimensions. Vous voyez, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on parle, par exemple, de transformation digitale, directement, on voit technologie. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, je dis n'importe quoi. On dit, non, on doit transformer... disons notre la chaîne publique, la RTNC, directement on voit les matériaux qu'il faut acheter des derniers cris, les derniers laptops, la dernière puissance et ainsi de suite. Mais parfois le numérique, c'est la culture, c'est-à-dire on veut bien de la technologie, mais on oublie de transformer l'humain qui va utiliser. Or, le plus grand frein pour toute transformation numérique reste l'humain. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que, explorez un peu toute notre administration, vous verrez que la plupart du temps, la résistance, c'est les humains. Les gens qui sont habitués de faire des choses d'une certaine manière, même quand vous amenez une autre façon de faire les choses, c'est le premier blocage. L'humain déteste le changement. L'humain résiste de toutes ses forces à n'importe quel changement. Donc, parfois, parler de transformation digitale...
C'est abusif.
Oui, on oublie... tant qu'on n'intègre pas le volet humain, rassurer l'humain, lui montrer que c'est dans son intérêt qu'on doit faire ces transformations-là, on aura toujours cette résistance. C'est pour cela que la majorité de sociétés échouent dans leur transformation. Parce que très souvent, on oublie que derrière, à moins qu'on arrive dans une société où il y a des robots qui le font, mais tant qu'il y aura toujours un humain sur lequel on va donner la dernière technologie et qu'il ne veut pas utiliser cette dernière technologie, la transformation va échouer à 95%.
Alors quand on voit votre parcours, c'est pas moins de 14 ans, près de 15 ans de carrière. Vous avez travaillé pour de grandes entreprises, de grandes sociétés dans ces pays pour toujours cette question, pour ces questions du numérique. Quel est aujourd'hui le plus grand défi que vous avez eu à relever?
Le plus grand défi que moi j'ai eu à relever, je pense que ça doit être au début de ma carrière quand je rejoins le marketing. Depuis que je suis petit, je suis considéré entre guillemets. Hein, vous avez toujours dans cette famille les gens qui, quand il y a un problème de téléphone, un problème d'ordinateur, le gars qu'on appelle pour essayer de toi, essaye un peu de voir. J'ai toujours été un peu ce gars-là. Même quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé ma carrière au service clientèle où j'ai fait 2 ans. Et quand je rejoins le marketing, c'était un peu sous cette casquette-là. Donc, on attendait de moi d'apporter des solutions à des problématiques que les autres n'arrivaient pas à comprendre. C'est-à-dire, on se dit, lui, il peut apporter la solution. Mon plus grand défi, c'était que quand je rejoins le marketing, j'ai trouvé une agence qui travaillait déjà avec Tigo à l'époque. On attend de moi d'apporter des solutions, mais l'agence, elle, avait un mode de fonctionnement qui ne me plaisait pas. Ils étaient en train de me retarder et j'étais nouveau. J'étais coincé entre le fait de ne pas réussir à atteindre mes objectifs et cette agence qui ne m'aidait pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai eu à discuter avec mon chef à l'époque. Je lui ai dit, je veux renvoyer cette agence-là. C'était un partenaire avec lequel la société avait l'habitude de discuter en termes de digital marketing et autres. Ils m'ont dit, est-ce que tu es sûr? J'ai dit, je suis sûr de ça. On va voir les directeurs. Mon chef me dit, si tu es sûr de ton coup, je t'amène voir le directeur. Et imaginez que je commence le travail, le directeur me dit, tu sais que c'est un partenaire avec lequel on travaille, ça fait quelques années maintenant. Je dis oui. Est-ce que tu es prêt à signer ta démission? C'est-à-dire...
Coup de pression. Hein?
Coup de pression énorme pour une personne qui vient de commencer. Coup de pression énorme. Est-ce que tu es prêt à signer ta démission? C'est-à-dire, si moi je renvoie l'agence et que tu internalises ces tâches-là, est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Si tu ne réussis pas, moi je te vire. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Si jamais je choue, virez-moi. Donc, la semaine d'après, on a fait les documents avec les départements légaux pour dire que non, on ne va plus travailler avec vous, et ainsi de suite. On a résilié le contrat, on a pris le budget, on me l'a disponibilisé et je suis encore la saison après.
Vous n'avez pas été viré.
Je n'ai pas été viré, ça veut dire que j'étais convaincu que je ne pouvais pas faire pire. Ils avaient un mode de gestion qui n'aidait pas. Connaissant mes compétences, c'est vrai que je n'avais pas toutes les réponses, mais j'étais sûr que je pouvais faire mieux. Et j'ai pris ce risque-là parce que dans tous les cas, s'ils me faisaient échouer, j'allais être viré après ma période d'essai. Donc je préfère encore être viré en assumant mes propres erreurs, que être viré pour les fautes des autres parce qu'ils n'arrivent pas à suivre ma cadence.
Voilà, je trouve très bien. Mais c'était quoi les fondements de votre assurance? Parce qu'en même temps, vous êtes en période d'essai. Donc, généralement, quand on intègre une entreprise, on suit la logique de l'entreprise. On ne voit pas, toi, tu es un nouveau, directement, tu viens imposer tes logiques. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Mais quelle était d'où venait cette assurance pour arriver même à voir le numéro 1 et lui dire ouvertement que je suis rassuré d'apporter des résultats?
Parce que mon assurance, je pense que c'est que j'ai été très factuel. Dans tous les cas, j'étais dans une période d'essai. Ça voudrait dire que j'avais déjà l'épée de Damoclès sur moi. C'est-à-dire, on m'a engagé pour avoir des résultats. Si à la fin, je n'ai pas ces résultats, on va me virer. Pendant que, en ce même moment, ce qui était en train de me bloquer, c'est l'agence qui avait un mode de fonctionnement qui ne me plaisait pas. C'est-à-dire, j'explique clairement ce qui se passait, c'est que nous, on a des tâches avec eux, mais ils ont une personne qui gère la société à partir de la Belgique. Il n'est même pas en local. Du coup, quand on me demande un travail, je ne sais pas l'exécuter. Je demande à cette agence qui me gère, je peux passer des semaines chez eux. Je n'ai pas de solution. Ils me disent que la personne qui doit faire ça est en Belgique. Quand il faut faire, ils ne font pas.
Et ça retarde.
Exactement. Dans tous les cas, j'étais déjà dans le pétrin. J'étais déjà dans des grosses difficultés. Il me fallait impérativement choisir. Quant à mourir, je devais choisir de quelle mort je devais mourir, si je dois dire ça comme ça, vous comprenez?
Oui, je vois très bien.
C'est-à-dire que je devais faire le choix de si je dois être viré. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas pour des erreurs que les autres commettent, parce qu'il faut attendre que cette agence fasse ceci, fasse cela, alors qu'auprès de l'entreprise, ce n'est pas ce qu'elle voit.
Exactement.
Alors, il y a encore du chemin à parcourir ici en République démocratique du Congo en termes de numérique, et c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que vous voulez révolutionner les secteurs. Quels sont les aspects que vous voulez toucher principalement?
Vous allez croire que je me répète, mais je me répéterai toujours, c'est toujours l'éducation. Okay. Ça, pour moi, le plus grand chantier, ça restera et c'est toujours l'éducation en général, l'éducation numérique en particulier. Vous voyez, aujourd'hui, donner à une personne la connaissance, c'est lui assurer un meilleur avenir. Moi que vous voyez là devant vous, je suis un pur produit d'Internet. J'ai l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que j'ai appris des nouveaux langages de programmation grâce à Internet, bien que j'ai un background de développeur. J'ai appris, entre guillemets, à jouer seul de la guitare sur Internet. J'ai fait mon master semi-présentiel, semi-online, avec une partie où je voyageais, où je restais, grâce à Internet. Et tout ça, j'ai accompli tout ça parce que j'ai compris que Internet, c'était une force. J'ai compris aussi que plus je m'éduquais, plus je me donnais la chance d'aller de l'avant. J'ai l'habitude de dire à mes apprenants, je leur dis que écoutez, parfois quand vous entendez 15 ans, vous voyez master derrière, vous avez l'impression que c'est le fils d'un dignitaire qui a étudié je ne sais où. Mais je tiens à vous informer que moi j'ai grandi à Kassavubu, j'ai une réalité particulière auprès de ma famille. Mais une seule chose est sûre, j'ai toujours cru que l'éducation permettait de briser les barrières, y compris l'éducation numérique. Aujourd'hui, Internet, il y a beaucoup de ressources sur Internet et il y a la barrière de la langue. Il y a l'intelligence artificielle qui permet de briser des langues. Aujourd'hui, la langue si vous allez sur Internet, vous verrez par exemple que le Lingala, au moment où on est en train de parler, est intégré chez Google et plusieurs intelligences artificielles. Ça voudrait dire qu'on peut prendre un contenu en anglais, le disponibiliser en Lingala et le donner à la population. Tout ça pour favoriser l'éducation numérique. Aujourd'hui, la barrière de la langue, c'est quelque chose de très important et ça empêche à beaucoup de gens d'accéder à la connaissance. Pour illustrer ça, moi j'ai l'habitude de dire par exemple que moi j'ai un mécanicien qui s'occupe de mon véhicule. Le gars, il est très bon. Il fait bien son métier. Il a appris le travail dans l'État. Le monsieur ne parle pas français, mais il connaît son travail. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que monsieur, mon mécano, qu'on puisse lui disponibiliser les ressources sur les véhicules avancés dans la langue qu'il maîtrise en Lingala? Au moment où on est en train de parler, toutes ces technologies existent. Vous voyez qu'il ne faut que... Il faut juste qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'évangélistes dans ce sens-là pour dire que les solutions au moment on est en train de parler existent, qui peuvent faire en sorte que si on disponibilise ces ressources-là dans cette langue-là et on fait la promotion de ces campagnes-là, on peut vraiment aider nos populations à faire un vrai bond. Je ne suis pas en train de dire que l'anglais ou bien le français, c'est pas mal, mais je dis qu'il y a quand même beaucoup de nos concitoyens qui sont laissés à côté à cause du simple fait qu'ils ne parlent pas français et l'anglais.
Énormément de talents, de compétents, mais juste parce qu'on n'est pas passé par la formation d'une certaine langue, on a difficulté. Alors, vos formations vont toucher quel domaine dans ces secteurs-là? Parce qu'après, c'est également très vaste, les numériques. Vous allez former pour devenir développeur, pour devenir qui concrètement?
Moi, généralement, actuellement, je suis digital marketing manager. Le marketing management, c'est le digital marketing management, c'est mon domaine de prédilection. C'est là où moi je donne le plus de mes formations, c'est-à-dire les gens qui ont leur business. Pour le compte de la société, c'est vraiment comment on améliore notre présence en ligne, comment on capture ce potentiel-là, comment on convertit ces clients-là en ligne à des vrais clients. Ça, c'est le côté intervention en société pour mon poste au sein de ma société actuelle. Mais pour le compte de la communauté, c'est l'idée. L'idée, c'est aider les autres à, peu importe ce que tu es en train de faire, comment tu peux utiliser vraiment Internet comme étant un point qui peut te permettre de te développer toi-même et de développer ton propre business. C'est vraiment sur ces deux volets-là que je base mes différentes interventions.
Pour dire que tout le monde est appelé, hein, tout le monde est invité à y prendre part. Il n'y a pas que, on va dire, des spécialistes du digital, non. Toute personne qui est intéressée par le digital peut participer à ces formations.
Exactement. Aujourd'hui, la magie d'Internet, c'est que la prise de parole a été donnée à tout le monde. Et aujourd'hui, il suffit de faire un tour sur Internet, vous allez voir que... J'ai envie de dire, n'importe qui peut briller sur Internet. Il suffit de savoir exactement ce que vous êtes en train de faire, les types de contenu que vous êtes en train de produire. Ça peut le faire.
Alors, on voit de plus en plus aujourd'hui, hein, on va revenir dans les entreprises, que puisqu'il faut se faire une place dans le digital, les entreprises se retrouvent parfois contraintes d'aller à contresens de leur culture ou de leur valeur même. Est-ce que la transformation digitale et numérique aujourd'hui l'emporte sur les valeurs de l'entreprise?
J'ai envie de dire que...
On est poussé par le buzz, on est poussé par tout ce qu'il y a sur Internet. Et parfois, il faut qu'on se fasse une place, il faut travailler la notoriété digitale. Alors, est-ce que le numérique l'emporte sur les valeurs?
J'ai presque envie de dire que ça dépend des bases que vous avez. Parce qu'on on sait que Internet va rapidement. Le numérique, le rythme, ça impose en fait un rythme effréné à plusieurs sociétés, vous voyez. Aujourd'hui, la réalité est qu'une société qui campe sur son positionnement et qui ne bouge pas se voit imposer un changement par la tendance, c'est-à-dire si vous ne suivez pas la tendance, c'est la tendance qui va s'imposer à vous.
Voilà.
Vous comprenez? C'est-à-dire vous allez vous rendre compte. Je donne un exemple très simple pour votre magnifique chaîne. Vous voyez que ce que vous faites en termes du marketing actuellement, marketing digital pour le compte de la chaîne, vous ne le faisiez pas il y a quelques années. C'est une tendance. Les gens, par exemple, je donne encore cet exemple de avant, la radio, c'était juste la radio, il n'y avait pas d'image. D'où est venue cette initiative de filmer les émissions radio et le faire vivre sur les réseaux sociaux? Vous voyez que c'est quelque chose qui, avec l'avènement de l'Internet, ça poussait les professionnels à se poser la question comment on ferait différemment la radio, et on a l'impression que la radio commence à devenir une télé sur le digital.
Voilà.
Vous ne suivez pas cette tendance-là. Pendant que vous faites votre émission, vous devez la filmer. Pendant que c'est filmé, c'est broadcasté sur les réseaux sociaux. Imaginez une chaîne qui ne le fait pas. Tôt ou tard...
Soit il s'adapte, soit il reste en retard.
Exactement. Et il va payer cher le prix de ne pas s'être adapté à temps. Parce que le fossé va se creuser. Une chaîne va s'imposer en termes de notoriété et la personne ne pourra juste pas suivre.
Donc, il y a ces entreprises qui intègrent les digitales, mais aussi qui ratent leur intégration avec des conséquences qui peuvent impacter parfois la productivité ou même la compétitivité. c'est aussi une réalité. Peut-être que l'intégration n'a pas été bien faite, peut-être qu'ils n'ont pas recouru à des professionnels, ou soit c'est des professionnels, mais il y a une incompréhension entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie digitale proposée. Comment s'y faire?
Une fois de plus, ça c'est une grosse problématique que j'ai eu à affronter durant toute ma carrière. Le truc c'est que on a la plupart du temps quand vous avez des décideurs devant vous, ils ont l'impression que ah non, le marketing digital c'est un petit truc. C'est une petite chose de rien du tout, c'est une image que tu vas mettre, c'est juste une capsule que tu vas mettre sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y ait un bad buzz qui tombe. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance du marketing digital et d'avoir un plan de gestion des crises. Vous comprenez? C'est-à-dire, la plupart du temps, ça reste toujours l'humain qui est à la base. Ça voudrait dire que aujourd'hui, toute transformation commence par l'humain qui impulse ce changement-là. Il doit comprendre la place de ce secteur-là dans son business et y accorder l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Ce conflit-là, il est vraiment permanent. Je vous raconte encore une anecdote. Quand moi, j'ai commencé ma carrière en 2008, je me rappellerai toujours de cela. J'ai des amis qui étaient aux finances qui me disaient « Tu es bien, hein? Toi, on te paye pour passer ton temps sur Internet et draguer des filles. »
Passer les temps sur Internet.
Et draguer des filles, il faut bien préciser. Je disais « Ah bon, moi, je m'amusais, je disais « Ça fait partie du métier d'avenir. » Plus tard, on va même payer des gens, des belles dames qui vont traîner au bureau juste pour détendre l'atmosphère. Ils riaient jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un truc au Japon où on faisait exactement ça. Et pourtant, moi, quand j'ai balancé cela, on était en 2008. Okay. C'est-à-dire, il y a de ces gens qui ne perçoivent pas c'est de l'avenir et ils considèrent vraiment le numérique ou bien les réseaux sociaux comme étant de l'amusement, du divertissement seulement, jusqu'à ce que ça puisse s'imposer comme étant un volet important du business.
Alors comment s'y faire? Parce que comme je l'ai dit, il y a des conséquences qui peuvent impacter la productivité ou la concurrence. Parce que quand vous lancez votre boîte, c'est vrai, vous rencontrez la concurrence, vous vous positionnez et vous entrez même en concurrence avec les autres les entreprises qui exercent dans les mêmes domaines. Mais après, vous voulez vous positionner sur les digitales, vos actions n'ont pas peut-être été correctes et que vous ratez votre intégration. Mmh. Comment s'y faire par rapport à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment et qui ont, une fois qu'ils ont attendu que vous serez notre invité, ils sont notamment venus pour à apprendre de votre expérience. Comment s'y faire quand il y a un échec en termes d'intégration dans le digital?
Déjà, je ne serai pas le premier à le dire. Le mot échec n'existe pas, il n'existe que des leçons. C'est-à-dire, quand vous avez échoué à faire cette intégration-là, posez-vous les questions et les bonnes questions, pourquoi ça a échoué? Peut-être que vous avez juste considéré cela comme un petit truc, vous avez considéré cela que le digital pour vous, c'est je fais une vidéo, je balance, ou bien je fais un visuel, je balance, il n'y a pas de stratégie derrière.
S'il est digital, ce n'est pas faire une vidéo et balancer, parce que je pense encore beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Je ne sais pas si moi aussi je suis parmi. Aujourd'hui, le digital, c'est quoi? Voilà.
Déjà, bonne question. Heureusement qu'on est revenu. Déjà, quand on parle de digital marketing, c'est le mot marketing qui est la base, qui est la clé. Aujourd'hui, le marketing, c'est toute une science, c'est tout un domaine. Il y a des concepts qui ont été écrits dans ce sens-là, et le numérique, ce n'est qu'un canal. Le comportement du client a été étudié. On connaît ce que c'est le comportement du client. En marketing, on connaît la notion de l'image de marque. C'est quoi l'image de marque? C'est quoi la notoriété? C'est comment on gère la satisfaction client, et ainsi de suite. Et le digital, ce n'est qu'une déclinaison c'est la déclinaison de ce marketing-là sur le canal qu'on appelle numérique. Ce qui se passe, c'est que les gens foulent au pied le métier de marketeur. À mes apprenants, moi, j'ai l'habitude de leur dire « Vous balancez un peu trop rapidement le titre de expert digital marketing et pourtant, vous n'êtes pas encore des experts marketing. » Vous comprenez un peu la nuance de...
Tout à fait.
Exactement.
Mais ils diront « C'est pour gagner des marchés. Quand tu ne fais pas ça, quand ton profil n'est pas optimisé. » C'est les termes souvent utilisés. Voilà, c'est compliqué.
Oui, mais ce n'est pas les bases. C'est ça la difficulté. Et à chaque fois que je suis devant mes apprenants, je m'évertue à leur dire il faut déconstruire cela. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le grand volet, ou bien sur le grand domaine qui s'appelle le marketing, les gens piquent juste des concepts et ils s'empressent à aller chercher des clients. Ils s'empressent à chercher des clients, ils s'empressent à implémenter cela. Mais aujourd'hui, comment mettre en place une stratégie digitale marketing si vous n'avez pas une bonne stratégie marketing et communication et vous ne savez pas comment tout cela est en train de fonctionner? Vous êtes en train de poursuivre quoi?
C'est pas seulement parce qu'on sait utiliser Facebook, on sait utiliser Twitter, qu'on se transforme en expert. Donc il faut normalement passer par des formations
en
marketing.
Exactement. Vous devez savoir c'est quoi l'image de marque. Je suis en train de poursuivre quoi comme objectif? Le visuel que je suis en train de publier, c'est pour avoir quel résultat qui va contribuer à quel résultat à venir? C'est quoi? Sur 5 ans, je veux avoir quoi comme résultat? C'est-à-dire, ça va vraiment d'une démarche où je dois avoir une stratégie. Pour mettre en place une stratégie, il y a une méthodologie. Et une fois que j'ai ma méthodologie, j'ai un plan clair, c'est à ce moment-là que je choisis le canal. Parce qu'il n'y a pas que le digital, parce que le digital doit être dans ce qu'on appelle aussi, en anglais, c'est Integrated Marketing Plan, c'est-à-dire un plan intégral. Il peut aussi... Parce que la réflexion commence par le client, pas par le canal. Vous voyez? C'est-à-dire, ça commence par les clients. Commencer par les clients, ça veut dire commencer par une étude. Je fais un exemple, j'illustre ça par un exemple. Imaginons que je veuille cibler les mamans qui vendent du pain dans mon business. Ok? Mon étude dit que c'est les mamans qui vendent le pain. Et quand j'entre en profondeur sur leur usage et consommation, je me rends compte que les mamans qui vendent des pains n'utilisent pas le téléphone pour aller sur Facebook, par exemple. Est-ce que c'est nécessaire que je puisse mettre en place un plan sur le digital et booster? C'est non. Même moi, en tant que digital marketing manager, je suis d'abord marketeur. Quand on fait un plan, quand on fait une communication, c'est pour répondre à un besoin de communication. C'est répondre à une cible bien précise. Si ma cible n'est pas sur le digital, je ne veux pas faire le digital juste parce que c'est tendance.
Juste pour faire beau. Alors, je vais vraiment revenir, il fallait vraiment que j'évoque cette publication. Une publication qui a fait les buzz et qui a créé des polémiques, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est un internaute africain, carrément. Il l'a dit ouvertement, il n'a jamais fait le marketing digital, il n'a jamais participé à toutes ces formations, mais il s'est créé une grosse communauté sur les réseaux sociaux, plus de 112 000 abonnés, et ces publications ne font pas moins de 1000 likes, et il est dénigré, malheureusement, il dit: je n'ai jamais fait le marketing digital ou quoi que ce soit, mais j'ai des leads, j'ai des réactions sur mes publications, alors que ces gens-là qui se présentent comme des experts en marketing digital généralement n'ont pas beaucoup d'abonnés, ne font pas beaucoup de likes. Malheureusement, il y a tout ça. Mais comment comprendre? Alors, pour lui, ce ne sont que des théories que vous vendez.
Malheureusement pour lui, lui-même, il est en train d'énoncer des théories qu'il ne maîtrise pas, le monsieur. Parce que ce qu'il est en train de dire exactement, c'est que si lui, il était cultivé, il comprendrait que c'est son objectif. C'est-à-dire, il veut de la popularité, ainsi de suite, il veut avoir des leads et il veut les avoir n'importe comment. À ce monsieur-là, je dirais que c'est normal. Tout ce qui va en confrontation, tout ce qui est choc, tout ce qui est... Je reformule. Sur Internet, les gens ne vont que pour deux choses, ils doivent savoir. Ils y vont soit pour l'information, soit pour les divertissements. Et entre l'information et les divertissements ont un plus grand volet. La majorité des gens vont pour les divertissements. En tant que professionnel, vous voyez notre émission qui, entre guillemets, notre émission... comme si, dès qu'elle sera perçue un peu comme scientifique, soyez sûr, de manière mécanique, elle aura moins de buzz que quelqu'un qui insulterait, quelqu'un qui ferait un montage ou une vidéo qui serait à tendance...
à susciter les polémiques.
Les polémiques, ainsi de suite. C'est comme ça qu'Internet fonctionne. Donc, lui, déjà, il a plus du succès parce qu'il est dans le buzz et il est dans les divertissements. Un monsieur comme moi, ou bien un directeur ou n'importe qui, on ne peut pas être dans les divertissements en permanence. Nous, on est dans, entre guillemets, dans la classe qui fait moins, c'est-à-dire la classe des gens qui font de l'information. C'est-à-dire, moi, quand je fais mon intervention, c'est pas le volet divertissement, je ne viens pas divertir les gens, je viens donner de l'information, je viens donner de la connaissance. Et si on va de ce postulat-là où les gens n'aiment pas ça naturellement et qu'ils aiment le divertissement, comment moi j'aurais plus de buzz que quelqu'un, n'importe qui vous citerait, même dans la sphère locale qui fait les divertissements, aura plus de buzz que mon directeur général ou bien votre directeur général.
Alors Plita, il dit qu'après aujourd'hui, c'est d'ailleurs vers nous qu'il recourt. Aujourd'hui, on parle de marketing d'influence. Ils partent rechercher des influenceurs, donc des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont une bonne notoriété sur les réseaux sociaux. Vous allez les rechercher encore eux, finalement.
Une fois de plus, le monsieur, c'est pour ça que c'est important, je ne sais pas qui a énoncé cela, mais j'aurais bien voulu lui recommander certaines documentations sur le marketing, parce qu'en gros, il est en train de parler des choses qui ont été théorisées, des choses qui s'expliquent, que lui, peut-être qu'il n'a pas lu, il a l'impression qu'il réinvente la roue. Mais c'est normal, en marketing, on dit qu'on suit là où les clients sont. On le paye parce qu'il fait du divertissement. Si notre client est sur son channel, ils sont en train de se divertir, moi, en tant que brand, ou bien en tant que responsable de la marque, c'est normal que je puisse aller vers lui tant que c'est là où sont mes clients. Si mes clients sont dans la rue, c'est comme ça que je mettrai mes banderoles. Si mes clients regardent la télévision, c'est là où je veux mettre mes clients. Je vais suivre mes clients et mettre ma publicité. C'est-à-dire, s'ils sont dans une église, dans un concert, c'est là où moi je vais aller. Je vais là où mes clients sont. Mes clients sont dans les divertissements. Je suis dans l'obligation de me... Je n'ai pas à mettre ma publicité et appeler les clients, venez voir. Un marketeur place sa publicité là où sont ses clients. Sur Internet, ce qui attire le plus, c'est les divertissements. Comme eux, ils sont divertissants, les gens sont en train de les suivre. Nous, en tant que stratèges, qu'on applaudisse ou bien qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas, le principe veut que tu puisses aller vers ton roi, parce que le client est roi. Ton roi aime le divertissement,
voilà.
Tu le payes pour que tu puisses apparaître là où on te divertit.
J'espère que ça c'est bien clair et c'est bien compris. On sort un peu de cette ignorance sur cette question du digital et tout ce qu'il y a. Les numériques, je l'ai dit dans ma première phrase, qui vient bouleverser les activités professionnelles dans tous les domaines. Bouleverser parce qu'en même temps, c'est dans les biens et dans le mal. Il suffit maintenant de savoir comment l'utiliser. Alors, on va dire que c'est un nouveau monde qui crée plusieurs métiers. Après, on a des développeurs, on a des community managers, on a tout ce qu'il y a, des experts en marketing digital. Mais il y a 20 ans, ça n'existait pas, tout
exactement.
Ça. Alors, nous sommes en train de vivre une explosion spectaculaire de professionnels dans ces domaines, ce qui pousse certains à dire que c'est un domaine qui, dans les prochaines années, va perdre son poids. Il sera difficile de gagner des marchés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais c'est un peu... Je ne pense pas. Mais dans n'importe quel domaine vous êtes, vous conviendrez avec moi, ce n'est que ceux qui vont se distinguer, ceux qui vont sortir de l'eau qui auront de marché. La vraie question à se poser, c'est est-ce que je suis assez différenciant pour continuer à gagner les marchés? Regardez n'importe quel secteur, vous verrez que c'est presque toujours les mêmes têtes, les mêmes agences, le même radio qui gagnent des marchés, même si les radios naissent sous plusieurs formes. Vous verrez que...
Donc d'abord, c'est faire des places des leaders.
Exactement. Au-delà de la place du leader, vous devez vous imposer comme étant quelqu'un qui fait des choses différentes, que les gens aiment. Et à ce moment-là, c'est pareil avec n'importe quel métier. On peut avoir des milliers de couturiers, vous devez vous rassurer d'être le meilleur de couturier. On peut avoir des milliers de community managers, il faut s'assurer d'être le meilleur de community manager. On peut avoir des milliers de journalistes qui sortent chaque année de l'IFASIC. Assurez-vous d'être le meilleur de meilleurs. Vous comprenez? Et ça s'applique à n'importe quel domaine. Aujourd'hui, en médecine, c'est pas parce qu'en médecine, on a On a des médecins qui sortent chaque année qu'on est en train de dire que la médecine va perdre son poids. Est-ce que la médecine a eu à perdre son poids? La médecine n'a pas perdu son poids malgré que c'est chaque année qu'on a de nouveaux médecins. Mais on est sûr que pour chaque domaine, quand on parle de radiographie ou bien de peu importe le domaine, on vous citera toujours des médecins, des références.
Si vous êtes sûr de vos qualités, de vos compétences, de vos innovations, exactement, vous n'aurez pas peur de la tempête concurrentielle.
Exactement. C'est-à-dire, c'est à vous de vous assurer que dans un secteur X, que l'on puisse vous citer comme étant les meilleurs. Si vous vous faites balayer, vous devez vous poser la question. Peut-être que vous n'êtes juste pas le meilleur dans ce secteur-là.
C'est bien clair, ça encore je pense que c'est bien compris. Alors on va passer à notre deuxième rubrique. Aujourd'hui nous avons un défi pour notre invité, un seul défi seulement. Même si je pense que c'est un défi qui a quelquefois été annoncé. Et je pense d'ailleurs que c'est une réalité qu'il a déjà rencontrée dans le milieu professionnel. Alors aujourd'hui notre question c'est de savoir... Alors on crée un contexte où il y a des entreprises aujourd'hui dont la politique des conduites ne matche pas avec la stratégie digitale que vous proposez. Vous êtes consultant, vous êtes une agence à qui on confie la stratégie digitale, la communication digitale, le marketing digital. Or, en tant qu'expert du digital, du numérique, vous savez que la stratégie globale de l'entreprise est soit moins efficace ou même has been, n'est plus vraiment à jour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas?
Je le dis clairement au top management, comme je vais vous donner l'exemple, que on est en train de courir vers le mur. Moi, par expérience, c'est vraiment ma recommandation pour tous les jeunes. N'ayez pas peur d'aller dans les confrontations et dire les choses. Sinon, on va vous dire pourquoi vous n'aviez pas dit. Donc moi, je préfère dire encore que, personnellement, je vais exécuter ce que vous êtes en train de me dire, mais dans mon humble avis, on est en train de courir vers le mur.
D'accord. Alors, lui, il est en tout cas dans sa logique. On continue dans ma logique. Vous, vous faites ce que je vous dis de faire. Alors, vous êtes prêt à travailler en ne pratiquant pas, en ne mettant pas en pratique vos idées, votre stratégie, votre idéologie, juste pour gagner de l'argent ou bien travailler à contre-cœur vraiment ou vous arrêtez?
Bon, moi je n'arrête pas. Je n'arrête pas seulement si ça reste une confrontation dans un terrain professionnel. Vous comprenez? Personne n'a une science infuse, personne ne connaît tout. Il peut avoir raison, je peux avoir raison, il peut avoir tort, je peux avoir tort. Tant que ça reste dans une sphère professionnelle, on continue à voir. À tester, j'essaie d'implémenter vraiment dans toute la volonté ce qu'il a recommandé en essayant de changer les choses. La seule raison, ce qui va faire en sorte que je puisse arrêter, c'est si jamais ça sortait de la sphère professionnelle, ça devient personnel. Vous comprenez, il y a de ces personnes qui sont dans la contradiction et qui en plus de la contradiction, ne sont pas dans le respect mutuel. Vous comprenez, voilà. C'est-à-dire quand ça devient personnel, c'est presque une insulte, c'est quelqu'un qui n'est pas respectueuse de ma personne, c'est-à-dire il s'impose en essayant de toucher le personnel, c'est à ce moment-là que je vais arrêter la collaboration. Mais quand il y a le respect et que ce n'est qu'un débat d'idées, quand il n'y a que débat d'idées ainsi de suite, je vais dire tu as cette idée, je pense que tu as une très mauvaise idée, mais donnons-nous un temps pour implémenter cela et essayons de voir si ça va réussir. Si après, on ne réussit pas, je lui dirais, c'est ton idée. Moi, j'avais dit, après, peut-être que, si on est toujours dans cet échange de respect, il va dire, testons maintenant ton concept.
Alors, c'est une réalité hein, qui est vécue presque tout le jour. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui nous suivent et qui peut-être se retrouvent dans cette même position, c'est-à-dire qu'ils ont une logique et qu'ils sont rassurés, en tout cas de qualifier des corrects, mais en face, c'est une autre réalité qu'ils rencontrent, une réalité pas professionnelle ou moins efficace, mais qui persiste suite peut-être à un manque d'innovation, à un manque de volonté du changement. Parce que, par exemple, vous avez dit, les numériques, c'est aussi les changements du top manager ou de manager de l'entreprise.
Déjà, il faut noter que toutes les sciences humaines disent que le changement, c'est lent. Et que l'être humain déteste le changement. Ça, il faut le noter. À quiconque qui m'entend aujourd'hui, sachez que même lui-même, là, il résiste au changement. Personne n'aime les changements. Les gens résistent vraiment de toute leur force.
On aime bien rester dans la zone de confort.
Exactement. Personne n'aime bouger de sa zone de confort. Donc, du coup, connaissant cette réalité, il faut vraiment être, le plus professionnel possible. C'est-à-dire, vous savez que c'est des barrières. C'est vraiment avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de tact, que vous allez essayer d'arrondir les angles, persévérer. Et je vous dis que ce n'est pas tout ce que moi je propose, même après 16 ans, qu'on accepte directement que je puisse faire. Il y a toujours des débats contradictoires. Il y a toujours « non, on ne devrait pas ». Il y a des choses où toi, tu veux que tu puisses faire. Et quand tu es un manager, même moi, ça m'arrive. C'est-à-dire, je suis un manager, je pense qu'une telle chose, on doit faire. Quelqu'un dans mon équipe me dit « non, il pense que c'est une mauvaise idée ». Mais tant que ça reste dans les débats d'idées, tant que ça reste dans le respect mutuel, on est dans le même bateau. L'objectif, c'est que quand on a un business, on veut que c'est... Au moins, on est sûr que nous tous, on veut qu'on puisse réussir. Mmh. On n'est juste pas d'accord sur la forme que va prendre cette réussite ou bien la méthodologie qu'on va utiliser. Du coup, travaillant, au fur et à mesure, on va aller de l'avant. Tout ce que moi, je ne tolère pas d'un point de vue personnel, c'est quand ça sort de cette sphère-là professionnelle, ça devient privé.
Oui.
Ça devient un débordement de langage, ça devient une prise
des
de position.
Des attaques personnelles.
Des attaques personnelles. On est en train d'échanger des idées. Quelqu'un qui me dirait tu es bête, ça, c'est une attaque personnelle. Non, monsieur, tu n'as pas le droit de me dire ça, avec tout le respect que je vous dois. Ça devient vraiment dans une sphère beaucoup plus personnelle. Et si ça se répète, c'est à ce moment-là qu'on sera obligé de se séparer.
On avance petit à petit vers la fin de notre émission. Un très bel échange avec vous. Je rappelle que vous êtes en même temps senior coach digital marketing à KDA Academy, hein, qui forme aujourd'hui beaucoup, beaucoup de jeunes qui évoluent dans ces domaines du numérique et qui brillent un peu partout. Énorme travail en tout cas. Qu'ils font et vous d'ailleurs. Donc, et aussi, vous êtes digital marketing manager à Vodacom. On aime bien comment ils font aussi, ils communiquent et ils gèrent leur présence numérique. Et donc, un coup de chapeau à vos réalisations. On arrive à la dernière étape de notre émission. Ici, ce sont les confessions.
Okay.
Alors, il y a juste quelques petites questions faciles aussi à répondre.
J'espère,
ouais. Ce sont juste des confessions parce que on espère que c'est pas vraiment des choses qu'on dit partout ou qu'on dit souvent. Donc c'est un peu sacré. Et mais ça reste dans un cadre professionnel et c'est ça aussi la particularité des U-Jobs. Alors notre première question pour ce soir, c'est pour quelle raison accepteriez-vous de perdre votre emploi aujourd'hui ? Pour quelle autre chose qu'on pourrait vous proposer et qui vous ferait dire « Ok, aujourd'hui, j'arrête, je ne suis plus dans les digitales, ces ambitions que j'ai des révolutionnaires et numériques en RDC, j'arrête. »
Je n'arrêterai dans le domaine numérique si j'ai réussi dans l'agriculture. Genre, okay. J'ai fait le champ, ainsi de suite. Ça marche très bien parce que c'est aussi une façon de contribuer. En fait, ma mission, elle est simple. En tout cas, la mission que je me suis donnée, c'est aider ma communauté. Je pense que ceux qui pensent différemment à certaines choses ont le devoir d'aider les autres. Si je ne le fais pas dans le numérique, je peux le faire en agriculture. Et si, même si ce n'est pas un de mes talents, mais ceux qui n'abandonnent pas la bilangue, l'élo et que ça marche, je pense que c'est dans ce domaine-là que j'arrêterai de faire le numérique.
Ok, donc bah, proposer au Pénam.
Avec les tracteurs et tout ça, oui. J'arrête.
Ça se comprend, surtout qu'on a un sol riche, ça se comprend. Alors, notre deuxième question, c'est quelle est votre pire expérience professionnelle ce jour ? Donc, mauvais souvenir, où tu l'as robé, tu l'as battuté, peut-être qu'il s'est gardé privé, mais ça choque. Quand on pense à ça, il y a vraiment des ressentiments négatifs.
Ça, je ne l'ai certainement jamais dit, mais quand arrive c'est souvent quand un changement arrive. Quand un changement arrive, par exemple un changement de société ou bien une mutation, et que vous vous rencontrez, vous avez des nouvelles personnes et des personnes qui ne vous apprécient pas votre juste valeur. Ça, ça choque. C'est-à-dire, vous avez travaillé pendant X nombre... Je donne un exemple. Vous avez travaillé pendant X nombre de temps. Vous avez un vécu. Vous avez le passé. Des nouvelles personnes arrivent. Ils balayent le passé. Ils balayent ce qui a été fait dans...
L'ingratitude.
Mais vraiment pas de... Appelons ça ingratitude. Mais vraiment dans le sens où vous ne reconnaissez pas les compétences de ceux qui étaient là. Je dis n'importe quoi. Disons, Univers FM existe et que vous, vous travaillez pour Univers FM. Pour une raison ou une autre, il y a un top management qui arrive. Le nouveau top management vous considère comme si vous étiez des stagiaires. Okay. Des gens qui venaient d'arriver. Ça, c'est une mauvaise expérience peut-être par respect pour les différents employeurs et différentes personnes. Je ne vais certainement pas citer les noms. Mais ça, c'est l'une des expériences. Quand j'y pense, c'est quelque chose de... je vous rassure, j'ai fait 6 ans chez Vodacom. Ce n'est pas le cas chez Vodacom. Mais dans... chez Vodacom, c'est très bien. Sinon, vous avez dit que j'ai fait de la publicité chez Vodacom. Mais c'est arrivé plutôt en transition... entre l'avant employeur et l'avant dernier employeur, donc changement, et on avait un ressenti assez particulier. On avait l'impression que vous étiez considéré comme étant de nouveau malgré les vécus, et ça ne passait pas vraiment beaucoup.
Qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui à poursuivre votre travail là où vous êtes?
La considération. Il y a quelques années, je ne serais pas invité à parler avec vous, par exemple, juste parce que le marketing digital ou bien le sujet lui-même, il était encore petit. À cette place, vous auriez préféré avoir, je ne sais pas moi, le directeur brand ou bien le directeur marketing. Mais aujourd'hui, vous m'invitez, moi, c'est déjà la preuve que le secteur a fait son bon nombre de chemin. Aujourd'hui, je suis invité dans les conférences pour parler de cela. Aujourd'hui, j'ai des demandes, des gens qui me disent « on veut être formé, on veut ». Et moi qui suis là dans le secteur, ça fait plus de 15 ans, je sens le changement. Vous voyez, quand vous êtes en interne et que les choses sont en train de changer, vous sentez vraiment que la mentalité et la considération de ce métier-là a considérablement changé en 15 ans. Et si ça changeait en 15 ans, ça veut dire que dans les 15 prochaines années aussi, peut-être que vous allez m'appeler et que j'aurai un autre titre et que j'aurai de nouvelles responsabilités, juste parce que ce secteur-là a encore beaucoup évolué.
Énormément d'évolution et d'avancement. Aujourd'hui, la troisième question, alors la quatrième. Aujourd'hui, qu'est-ce que gagne un senior marketing et manager comme vous aujourd'hui en termes de revenus mensuels, c'est-à-dire pas seulement là où vous êtes, mais de tout ce que vous faites, ça peut s'évaluer à combien?
Ouf, la question de salaire est vraiment dynamique. Je ne pourrais même pas essayer de m'avancer à la place des ressources humaines. Mais tout ce que moi j'ai l'habitude de dire, en tout cas par expérience, à toutes les personnes qui m'entendent, j'aurais un seul conseil à dire, c'est que vous devez connaître vos propres compétences pour mieux négocier votre contrat à l'entrée, parce que le contrat, il est individuel. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis très mal payé, parce que je fais partie des vieux community managers, entre guillemets, digital marketing dans le secteur, parce que ça fait 15 ans que j'ai commencé de manière graduelle, j'ai gravi les échelons. Pour le même poste, si moi je postule en entreprise, je vais négocier différemment par rapport au même poste à une personne qui vient qui aurait 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est une réalité.
Tout
Donc, on n'aura pas toujours le même bagage. Je ne veux même pas m'avancer en termes de chiffres ou donner une certaine référence. Mais la négociation, elle est personnelle selon vos acquis, selon votre background. Même la personne qui est devant vous sait que j'ai devant moi un senior qui a du vécu, qui a X qualifications, qui a de l'expérience, qui a de l'éducation. Et quand vous lui avancez un chiffre, la personne sait que vous n'êtes pas en train de lui donner un montant farfelu. Il sait que c'est vraiment un... Il sait que cette personne vaut ce montant-là.
Donc, est-ce que c'est aussi parce que ce n'est pas régularisé ou c'est parce qu'on n'a pas encore vraiment une idée sur ça, parce que c'est un nouveau métier? Parce que par rapport à d'autres domaines, on sait quand même qu'énorme, un senior en Marcom, la fourchette, c'est entre ça et ça, estimation quand même, pour que si c'est aussi une question de motiver ceux qui nous suivent, que non, en tout cas, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, quand je serai senior, je peux espérer tel chiffre à tel chiffre. Voilà.
Non, les barèmes, c'est. Les barèmes, par exemple, dans les sociétés, comme les notes sont fixes, de toutes les façons, il y a des fourchettes. Par exemple, pour ne donner que l'exemple de mon employeur, il y a les level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Un manager ou un senior manager, chez la plupart des télécommunications, il est level 4. Et le level 4 a une fourchette d'entrée et une fourchette de sortie. Et la différence entre la fourchette d'entrée et la fourchette des sorties peut être vraiment très ventilée. Mm. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un manager chez Vodacom ou ailleurs qui porte le titre de manager, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des classes d'écart entre les deux.
D'accord, merci beaucoup. Je pense, puisqu'il nous reste peu de temps, je vais juste poser encore 2 questions.
Ok.
Et je choisis laquelle. Alors, quelle est votre compétence professionnelle que les autres apprécient, mais dont vous-même, vous n'en êtes pas vraiment fier?
Compétence professionnelle, ça c'est une belle question. Je n'y ai jamais... penser. Je ne vais pas faire de fausse modestie, mais à chaque fois que je fais une intervention et que les gens me disent que je suis brillant, moi je dis non.
Okay.
Je ne pense pas
par être... humilité ou...
Je ne sais pas. peut-être parce que étant plus jeune, il y a des fois où j'enchaînais des bons diplômes et des bons résultats et des mauvais résultats. Mm. Tout ce que moi j'ai eu à apprendre, c'est que travailler sur ses défauts de manière régulière apporte du résultat. Mm. Et comme je travaille sur moi beaucoup, c'est-à-dire j'ai des difficultés, j'apprends à surmonter cela, j'ai pas l'impression que c'est parce que je suis brillant. C'est surtout parce que j'ai compris qu'il faut travailler sur mes échecs. C'est à ce moment-là que brillant, j'ai l'impression que je suis un petit génie et je ne le pense vraiment pas.
On va s'arrêter ici avec cette question. Vous allez faire une dédicace à une personne qui vous a marqué durant toute votre carrière. Un collaborateur, une collaboratrice qui, pour vous, a été la meilleure ou les meilleures par rapport à ses compétences, par rapport à sa présence, son action autour de vous pendant tout ce que vous avez fait.
Ça, c'est très clair. C'est Madame Josie Kongo. C'est ma première manager chez Tigo, celle qui m'a recruté quand j'ai quitté le service client pour rejoindre le marketing. C'est elle qui m'a chaperonné. C'est quelqu'un que je n'oublierai pas parce que vous voyez, quand vous faites cette première transition, vous tombez sur un bon chef, vous avez une carrière comme la mienne, vous tombez sur un mauvais chef dès le départ, vous avez une carrière assez désarticulée. Donc, Madame Josie Kongo, Mbote.
Mbote nao, Madame Josie Kongo. Alors, c'est la fin de l'émission. Un mot rapidement à dire peut-être à nos auditeurs ou à d'autres personnes qui sont connectées.
Continuez à apprendre, continuez à vous dépasser. Il n'y a vraiment, vraiment aucune limite à la connaissance. J'ai appris à comprendre que l'argent n'est qu'une résultante. C'est-à-dire, plus vous vous développez vous-même, plus l'argent vient tout seul. Donc, ne vous limitez vraiment pas. Il n'y a aucune raison de se limiter. Continuez à travailler sur vous et le reste va suivre.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces réponses qui nous sont très riches. Et on a appris, je pense, beaucoup de choses. Je rappelle, Monsieur Melchor Essomassor Otiao, merci pour toutes vos réponses. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir reçus. Ne vous fatiguez pas d'aimer. Merci, c'était notre deuxième rendez-vous du mois. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième rendez-vous. Je reçois une jeune entrepreneur. On aborde bien sûr une nouvelle thématique, un autre secteur, et je vous inviterai à ne pas rater cette émission.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.